When you speak, we have one or three, one or two, and Pablo, je vais comprendre ça. Malheureusement, il devait y avoir deux micros à la deux, il y en a plus qu'un, ça fait plus de vache. Donc, time for the round table, and which is also the final thing. Time for the question. You have heard all the talk, and if you need more, get into more details and discussions.
Bonjour, je suis Dominique Baudin, je suis directeur d'une bibliothèque universitaire dans la banlieue de Paris, et donc je suis conservateur général des bibliothèques depuis un certain temps, et donc je fréquente la communauté universitaire et plus spécialement la communauté des chercheurs depuis un certain temps. Alors, comme il y a eu beaucoup d'observations, on va dire, sur le lien entre les bibliothécaires et les chercheurs, je voudrais d'abord fournir une information là-dessus. Personnellement, ça fait 30 ans que je suis dans le monde universitaire, j'ai identifié trois communautés vertueuses, mais trois seulement. Alors, moi je mets en tout premier les juristes. Les juristes sont carrément des documentalistes qui s'ignorent. Ils sont toute la journée dans la commission de documentation. Donc, dès qu'on parle bibliothèque, ils sont là. On n'a même pas besoin de leur dire de venir. Dès qu'il est question de la bibliothèque, ils sont là. Et ils sont tout le temps dans la bibliothèque. La deuxième communauté vertueuse, c'est effectivement les maths. Et c'est vrai que le réseau des bibliothèques de maths est absolument exemplaire. Et la troisième communauté, ça va peut-être vous choquer, c'est les théologiens. Alors les théologiens, eux, c'est pareil. Sans la bibliothèque, ils ne sont rien. Et donc, dès que vous parlez de bibliothèque, ils sont là. Je fais un cas tout à fait à part pour les historiens, parce qu'eux ne fréquentent pas tellement les bibliothèques, mais plutôt les archives. Mais en tout cas, ils ont également une grande pratique documentariste, on va dire. Voilà. Mais je peux vous garantir, pour avoir en 30 ans essayé inlassablement, d'intéresser les chercheurs et les labos de recherche aux problèmes de leur financement qui ont fini par m'exposer la figure avec le délire, je peux vous garantir que c'est très très difficile. Parce que la plupart ont le réflexe qui a été mentionné hier par vous-même, Madame Favre. Tant que ma voiture elle marche, je me fiche d'aller voir mon garagiste. Et je peux comprendre, pour ma part, que les chercheurs s'intéressent essentiellement à leur recherche, pour leur pour ça, hein, et donc dès qu'on leur parle un peu d'autre chose, ça leur casse les pieds. Et donc, il est très très difficile de motiver les chercheurs à venir dans des réunions ou à organiser eux-mêmes des réunions où on leur parle de toutes ces questions-là. Donc je suis ravi que ça ait été fait là pendant 2 jours. Ça, franchement, chapeau, même s'il n'y a pas trop de monde, mais au moins ça a été fait. Voilà.
Le problème, c'est que justement, on ne peut pas faire déplacer les chercheurs de force, hein, c'est normal.
Voilà.
Et un chercheur, ce qu'il veut, c'est, vous l'avez très bien dit, il veut travailler, il a besoin de concentration, moins on le dérange, mieux c'est pour sa recherche.
Alors maintenant, ce que je note comme problèmes qui ont été soulevés, c'est effectivement le fait que, je dis « on » puisque bon, je participe à Coupin, évidemment, c'est vrai que la négociation par bouquet était probablement une erreur dans laquelle on est tombé. Et ça, c'est une erreur doublement, d'abord parce que ça fait le jeu de l'éditeur, pas du publisher, et puis, ça a été dit souvent, hein, dans 2 jours, ça ne respecte pas les cultures documentaires différentes des disciplines. Et c'est vrai, alors, actuellement j'exerce depuis une dizaine d'années dans une université réellement pluridisciplinaire, où il y a réellement toutes les disciplines. Il a vraiment fallu que j'arrive là pour me rendre compte de ça. Auparavant j'étais dans une université très très nettement dominée par les juristes. C'était très agréable pour moi, parce qu'encore une fois, la bibliothèque c'est sacré pour eux. Voilà. Et on ne se rend pas forcément compte des différences de disciplines. Mais là, franchement, dans l'université pluridisciplinaire, on voit que les médecins ne réagissent pas du tout pareil, les sciences de la vie, c'est autre chose, les matheux, c'est encore autre chose, et alors les SHS, n'en parlons pas, et le droit et l'économie. Donc ça, c'est une idée qu'il faudrait vraiment faire passer au sein de BSN, je suis ravi que vous y soyez, au sein de BSN, au sein même de Couperin, il faudrait peut-être vraiment faire insister là-dessus. Voilà. Quand, alors pour revenir au lien avec les chercheurs, il est difficile pour nous également, parce que Sandrine Malotto vous l'a dit hier, ce sont les institutions qui sont membres de Couperin, c'est pas les bibliothèques. Donc nous, on demande à l'institution de nous envoyer des gens. Et après, on fait avec les gens qui nous envoient. Voilà. Si l'institution nous envoie des gens qui ne sont pas forcément les plus compétents en matière de recherche et de documentation recherche, on n'a quasiment pas de moyens. On ne peut pas s'élever contre ça. On ne peut pas dire à un texte, vous nous l'envoyez, il est mauvais. On n'a pas le droit de dire ça. On ne peut pas. Diplomatiquement, on ne peut pas. Et puis, éthiquement, on ne peut pas. C'est une réelle difficulté. Voilà, c'était juste mes observations.
Oui, je trouve ça très intéressant. Merci. C'est peut-être en temps de crise qu'on peut faire évoluer les choses. En ce moment, je ne vous apprends certainement rien. Les budgets des bibliothèques diminuent et une partie des présidents d'université tire argument du fait que tout est en accès libre pour diminuer dramatiquement les budgets des bibliothèques. Là, les chercheurs vont se sentir vraiment concernés. Et...
C'est bon que tu
le vois. Il y a aussi ça. Donc, c'est certainement difficile pour les bibliothécaires, comme vous dites, de faire face à leurs institutions, mais comme je le répète maintenant depuis pas mal d'années, dans cette histoire, les chercheurs et les bibliothécaires sont du même côté, d'une certaine façon, face à des présidents d'université, sans vouloir généraliser, qui ne sont pas toujours au fait des problèmes de documentation tels qu'ils se posent vraiment. Donc, une alliance sacrée peut se créer.
Je me permets de prendre aussi la parole liée à ce que vous avez dit. Effectivement, vous avez tout à fait raison, la communauté des juristes a un très grand respect pour les bibliothèques, mais au point où, à ma connaissance, et corrigez-moi, ils ne passent pas par Couperin pour négocier. LexisNexis a été négocié directement par le cabinet du Premier ministre et ils ont un contrat absolument exemplaire qui est renouvelable tous les ans. Il y a le contrat circule dans les ministères, j'ai pu l'avoir. Et quelque part, c'est pour moi un bien meilleur modèle que ce qu'on obtient avec la négociation Couperin. Je répète, la négociation Couperin, celle qui est en train de se terminer avec Elsevier, apparemment, vous avez signé pour 5 ans. Le signer pour 5 ans, ça sera, on est bloqué pendant 5 ans. La négociation LexisNexis, ça a été il y a 2 ans, je crois, mais c'est renouvelable tous les ans. Dans le contrat, il est écrit tous les ans, on refait le point. Et le contrat n'est pas public au sens tout le monde peut le lire, mais il circule. Donc quelque part, c'est déjà bien. Et alors surtout, la négociation a été faite par des juristes. Hein? C'est-à-dire que les gens qui ont négocié avec LexisNexis, pour les personnes qui ne connaissent pas LexisNexis, c'est le groupe RIC, donc c'est la même chose qu'Elsevier. Et je pense que ça, à nouveau, notre communauté peut-être pourrait prendre des choses un peu plus en main. Quand j'avais écrit le rapport au comité d'éthique, dans une des recommandations, c'était de dire il faut que lors des négociations, on mette aux côtés des bibliothécaires, donc les personnes qui sont dans Couperin, mettre des chercheurs et des juristes.
Alors, les juristes y sont et Nexis, le contrat LexisNexis a été négocié par Couperin.
Écoutez, moi j'ai d'autres sources, je peux vous donner mes noms.
Alors attendez, je vous donne mes mémoires. C'est les bases juridiques, alors c'est là qu'on tombe dans la différence des disciplines. Il faut bien voir que le droit est une des rarissimes disciplines, peut-être même la seule, qui soit restée étroitement nationale. C'est-à-dire que quand on négocie avec l'AMI, quand on négocie avec les répertoires Lefebvre, quand on négocie du droit français pour les Français qui n'est utilisable qu'en France. Ça change tout. C'est-à-dire qu'effectivement, quand le ministère intervient, il y a un poids réel, c'est-à-dire que LexisNexis, soit il veut vendre ses produits français en France, soit il ne veut pas les vendre, mais il les vendra nulle part ailleurs. Alors que quand on négocie avec Elsevier, il vous fait tout de suite comprendre que ces bases, les vendent dans le monde entier, que si vous n'êtes pas content, rien n'en affiche de vous, parce que vous représentez 0,4% de son chiffre d'affaires. Voilà.
Donc, je suis tout à fait d'accord, mais je trouve que le cas d'ExisNexis,
c'est un cas très particulier.
Oui, mais c'est quand même joli parce que c'est une vraie négociation nationale au niveau du cabinet du Premier ministre. C'est mieux que de faire des négociations.
Il y a une intervention massive, des instances publiques, ça c'est sûr. Et les juristes, ça diffère aussi pour avoir ce genre d'intervention.
Et j'ai même mis personnellement Sandrine Malotto en contact avec la personne dans le cabinet qui a participé à cette négociation, justement pour que vous en inspiriez un petit peu dans les négociations. Parce qu'ils ont fait c'est quand même bien d'avoir des juristes. C'est très important.
Non, mais les juristes, Sandrine Malotto vous l'a dit hier, les juristes, ils y sont. Hein,
dans non, les ils sont après, au moment de la signature du contrat. Si j'ai bien compris, ils ne sont pas au moment des négociations. Ce n'est pas du tout la même chose. Quand vous avez bouclé la négociation et que vous signez le contrat, naturellement, vous avez des juristes qui vérifient le contrat. Mais là, c'est trop tard, vous n'avez plus rien à négocier.
Est-ce qu'il y a d'autres questions sur moi, j'en ai.
Moi, je vous change tout à fait la question. Donc, je voudrais revenir sur les questions des Creative Commons ou des licences de notre production scientifique. Une des choses que moi, je travaille depuis longtemps dans la diffusion de logiciels dans les laboratoires de recherche. Et une des choses que j'ai compris dans mon monde déjà, c'est que la licence pour le logiciel, ce n'est pas comme les publications. C'est très difficile parfois de savoir qui a fait le logiciel. Donc, associer les auteurs aux produits scientifiques, que ce soit des articles, des données, des logiciels, avoir les auteurs, leur laboratoire et institution bien identifiés, c'est déjà parfois très difficile. Mais désormais, moi, ce que j'ai dit, c'est que les objets scientifiques doivent être identifiés avec une citation qui contient la licence. Contient les cadres d'utilisation de cet objet. Ça doit être de plus en plus normalisé ou compris. Les cadres d'utilisation d'un objet scientifique, par défaut, doivent être bien identifiés avec la licence. Et il faut insister dans ce que Daniel a dit déjà, c'est que la licence donne un cadre par défaut si les utilisateurs ne veulent pas ce cadre, ne l'acceptent pas ou cherchent une autre utilisation. On contacte les auteurs pour avoir une autre licence, un autre moyen de collaboration. Mais les licences donnent un cadre par défaut. Les gens peuvent travailler en collaboration autrement que par une licence qu'on donne dans laquelle on donne des droits de façon large.
En général, effectivement, ils ne sont pas considérés comme étant très innovants. C'est très bien. Ils en ont besoin, c'est vrai. Et puis l'XXNSI, c'est très cher, je veux dire aussi, on peut pas d'open access, on a rien du tout, enfin on a quelques résumés, ils n'ont pas le choix, hein, je veux dire. Bon, alors concernant les logiciels, c'est pas licenciable sous le Creative Commons, on est bien d'accord, hein. Bon, alors d'ailleurs c'est intéressant le schéma qui a été donné, je crois que c'est toi, sur les données, les logiciels et les publications. Bon, moi j'assume beaucoup, c'est les publications, pas de problème, c'est du contenu, c'est licence Creative Commons, c'est le logiciel, non. Et les données, par le biais, souvent c'est en train d'évoluer. Hein. Il est possible que les données soient protégeables par le droit d'auteur. Donc si elles sont protégeables par le droit d'auteur, elles le seront par les licences Creative Commons. Voilà.
Je suis un tout petit peu étonnée de ce que tu dis, parce que regarde, les logiciels, si elles ne sont pas protégeables par les Creative Commons, ce que tu viens de dire, normalement les logiciels, c'est du copyright.
C'est un copyright spécial.
Oui, mais c'est quand même du copyright. C'est-à-dire qu'en gros, articles logiciels sont relativement proches, si tu veux. D'accord, et tu as raison, Creative Commons, comme on l'a vu, les licences Creative Commons ne s'appliquent pas aux logiciels. On a plein d'autres licences, dont d'ailleurs Punit a donné la liste pour les logiciels libres. Hein. Ça, on a une série. Et c'est bien connu, et c'est toute une culture du logiciel libre qui est très développée et qui fonctionne très bien. Et que l'industrie utilise beaucoup aussi, il ne faut pas l'oublier. Maintenant, parlons des données. Les données, c'est récent, c'est qu'on se pose la question, et il y a urgence, parce que les publishers, eux, ils se la sont posés depuis très longtemps, mais j'ai quand même un tout petit peu un doute, et je trouve que Teresa a très bien mentionné le problème. Il y a une grosse différence entre un article où tu peux quand même facilement identifier les auteurs, même s'il y en a quelquefois 200 dans certaines communautés, et les données. Parce que les données, tout le monde contribue à la base de données. Ça peut être un nombre, mais des milliers de personnes, si tu veux. Donc, quelque part, on ne peut plus du tout fonctionner de la même façon. Et là, il faut effectivement des juristes innovants, mais aussi des chercheurs qui disent ce qu'on veut, parce que les juristes innovants, les publishers les ont, parce que qu'est-ce que veulent les publishers? C'est très simple. Ils veulent, et ils ont raison, que les bases de données soient techniquement reliées aux articles pour qu'on puisse justement vérifier le contenu de l'article. Mais le jour où ça sera techniquement fait, et pratiquement, il faudra qu'on fasse très attention. Le contrat qu'on signera, c'est-à-dire l'équivalent du copyright agreement, il leur donnera la possession des données. Donc là, il y a une guerre vraiment difficile qui sera amenée, mais elle est beaucoup, beaucoup plus technique que le problème des articles. Et le problème des articles, vous avez déjà vu qu'on a du mal à s'en sortir. Donc là, on a vraiment besoin de juristes et des différentes aussi, des différentes, comme vous l'avez aussi très bien dit, d'un pays à l'autre, on n'a pas les mêmes juridictions. Donc faire des compatibilités, trouver des licences pour les données qui seront compatibles avec toutes les législations et qui seront compatibles avec le travail de recherche, ça va être très difficile.
Non, mais là, tu soulèves une question qui est plus large que la nôtre, mais qui montre que les modèles sous lesquels on était, à savoir justement la personnalisation du texte, le texte étant considéré dans nos cultures comme le summum de l'investissement personnel, donc devant être sauvegardé, comme je l'ai vu, je vous incite vraiment à lire cet article, il y aura une production à partir, en fait, les données bien classées, un logiciel qui traite, qui va chercher les données et qui est capable de les remettre dans des textes où finalement il n'y aura pas d'intervention humaine dans la création du texte. Alors on est en train de renverser complètement l'idée du texte personnalisé. Il semble que maintenant ça commence à exister, c'est pas seulement une projection. Hein. Donc on est en train de changer complètement la notion de personnalisation du texte. Et peut-être que la donnée va devenir beaucoup plus importante que le texte dans certains domaines. Donc c'est exactement le contraire qui va se passer.
Bon, personnellement, ce que j'appelle données, parce que je suis dans des communautés où depuis très très longtemps, on produit d'énormes bases de données, la météo, le climat, l'océanographie, le spatial, etc. Donc on a cette culture des données depuis très très longtemps. Et mon labo, par exemple, a toute une série de gère des bases de données qu'on produit. Mais c'est produit par des milliers de personnes. C'est ça simplement le problème. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire l'attribution à un auteur ou à 1000 ou 5000 auteurs parce que c'est impossible de suivre qui a contribué à la base de données. Donc je dis là, il faut penser, je pense, le problème d'une autre façon. And, OK, Punitive, maybe you have something to say on that because Punitive is a specialist of this question. Yeah, that's it. This is why I'm kind of moving to English because I feel the argument was, I kind of just. I mean, Teresa was mentioning papers, articles. She was mentioning also the software and data. And the argument I'm kind of pushing is beware, the data is much, much more complex due to the fact that for papers, we can, even if there are 300 co-authors, we can still know about the attribution. But with databases, it's nearly impossible just because if you take some meteorological data set, for instance, there have been thousands and thousands of contributors, and it doesn't make any sense. Even
what was the question?
No, the question was about the license to that.
Okay.
Yes, yes, but you.
Okay.
So, il y a une pause juste après. Il faut qu'il mange et tout ça entre temps. Donc, on va se dépêcher là. On vous laisse encore genre 10 minutes grand maximum en tout. Donc, chacun limitez vos interventions un tout petit peu. Il y a juste Teresa qui finit un truc, ensuite il y a une question là, et après on finit.
Donc, what I say that is that data, as well as software, as well as articles, should be well identified as scientific objects.
Yeah,
in a way we can cite them.
Yeah,
we know who has worked, even if it's too difficult. Main
yeah.
contributors. There are ways to understand who has produced the database or a laboratory or,
right,
or
right.
something. And from now on, we should associate the license to the signature of the object.
No. So. When you're talking about citing, it is more important to focus on a persistent identifier as opposed to the license. I mean, license is really the legal aspect. You know, you don't want to worry about it. It should be there. It should be findable.
What you say? You said that the license should be well specified.
Well specified, and it should be linked to the object.
It should
definitely.
Be clearly,
yes,
easily
absolutely.
Visible.
Absolutely.
And so, if you put the license near the author on the institute or this person, it's very easy to
yes.
To understand what you can do with this object.
Yes, but if I'm querying a database, and I'm querying, I don't know, say 300,000 rows, and I'm getting 50,000 rows back, it's very difficult to know if I start bringing license information for every row. I mean, theoretically it is possible, but it just would be too cumbersome. Actually, some people do that. I have recently started using a geocoding API. Geocoding is where you give the computer an address and it returns the latitude, longitude. That's geocoding. It tells you what the coordinates are. They return back the license information as well. But not everyone does that because it can get very burdensome, especially when lots and lots of data are involved. I think it's more important to have a persistent identifier so you can actually get to the citation. Because that is much more recurring problem or issue that happens rather than actually legally looking at the license issue. It's just that it should be linked. So I'm not sure if you're worried about this or you are questioning about this. Or
what I think is that the identifier, the persistent identifier, the license, all the author information, all this to be the same set of metadata.
In an ideal world, that would be very good.
Somehow, to be easy.
Absolutely, in an ideal world, that would be very good. But when I query a data, and when I get to some object, be it in literature, a paper, or a data query result, or a software, from there, I get to that because of a persistent identifier. Once I get to its homepage, then I can get to know who its author was, the collaborators were, and then I can get to know what its license was, etc. also. So I mean, there's nothing wrong with what you're saying, just the question of making it technically feasible and not making it burdensome for the scientist, that's all. I don't know. I can't. Science is so varied and so big that I can't speak for every case whether it's easy or difficult. That will be something that the scientists in their field will have to decide. It really varies from field to field. Yeah.
Well, just a small question, a small issue. Property right, le droit d'auteur est fondé. Une personne. C'est pour ça que j'insiste sur la personnalisation. Il n'y a pas de droit d'auteur collectif. Il va falloir peut-être envisager de changer aussi le droit d'auteur pour faire des droits d'auteur collectifs. Voilà. En matière de commun, c'est clair que les gens sont en train de réfléchir à, par exemple, une communauté, une ethnie, musique, etc. Personne ne peut être identifié comme auteur. Mais on a besoin quand même de protéger. Et là, le droit d'auteur, il est vraiment très en retard, très très en retard, le droit d'auteur traditionnel.
Oui, j'avais deux questions. En fait, une, c'était pour, je voulais revenir un petit peu sur les pratiques des éditeurs, puisque vous en avez parlé. Déjà, je rappelais qu'on a beaucoup parlé d'Elsevier, mais il ne faut pas, en se focalisant sur Elsevier, oublier tous les autres et laisser les autres développer leurs pratiques. Voilà, il faut être vigilant. Et donc, il y a une pratique, par exemple, que j'ai identifiée chez Willet, mais d'autres font peut-être sont sans doute pareilles. Vous savez, il y a ce système qui fonctionne, le prix, il est calculé en fonction, enfin, le prix du bouquet, hein, le prix du bouquet, il est calculé en fonction de ce qu'on appelle le chiffre d'affaires historique, c'est-à-dire un petit bouquet de revues, de 5, 3, 4, 10, vos revues historiques. Il y avait des revues de Willet qui étaient, pour lesquelles vous n'étiez pas abonné, et qui étaient dans le bouquet. Avec les statistiques, comme ils ont la possibilité de voir les statistiques, ils voient quelles sont les revues dans le bouquet pour lesquelles vous n'avez pas souscrit, qui sont très intéressantes parce qu'ils voient qu'il y a beaucoup de téléchargements. Donc dès l'instant qu'il voit qu'il y a une revue dont les statistiques montent, pouf, il sort du bouquet. Donc vous n'avez pas accès. Et donc, pour avoir accès, parce que nous, c'était une revue comme ça, le Journal of Separation Science, nous l'avons pris par abonnement, disons, individuel, en plus donc du paquet, du bouquet. Et puis, à un moment, je ne sais pas pour quelle raison, cette revue qu'il avait sortie du bouquet, il la remet dans le bouquet. Alors j'ai dit, mais vous l'avez remis au bouquet. Alors, et ils nous ont demandé tant de payer plus pendant que cette revue était dans le bouquet. Et j'ai dit, oui, mais au départ, elle était dans le bouquet et on payait, disons, 1000 dollars. Vous la sortez du bouquet. On la prend en plus. On paye l'abonnement. Maintenant, vous la remettez dans le bouquet et vous nous dites de payer pas 1000 dollars, mais 1200 dollars. Parce qu'elle est dedans. Mais avant, elle n'était pas. On était dans la même situation. Je veux dire, ils veulent. Voilà. C'est une pratique quand même assez. Ça, c'est les bibliothécaires qui peuvent vous témoigner de ça. Et là, les choses de registre, aussi, parce qu'on n'a pas le temps, si vous voulez, je peux vous donner plus d'infos plus tard. Ma deuxième question, c'est sur les licences Creative Commons, parce que là, je suis naïve, en fait, je ne connais pratiquement rien. Donc, tout ce que vous avez dit, concrètement, comment ça se traduit? Par exemple, si moi j'écris un article, il suffit que je prenne le logo CC BY et le coller sur mon. Sur le, dans, c'est ça? Ou il faut faire une procédure, une démarche voilà, c'est une question pratique.
It's very, very, c'est très très simple, mais je, bon, ça prend, on dit que ça prend une minute, mais vous allez sur le site Creative Commons France, vous avez deux possibilités, soit vous êtes utilisateur des œuvres qui sont sous Creative Commons et vous interrogez le moteur de recherche, ou vous êtes auteur vous-même et à ce moment-là vous voulez utiliser la licence, l'option pour la mettre, l'affecter, on va dire, à votre œuvre. Donc dans ce deuxième cas, c'est ce qui vous concerne en tant qu'auteur, vous choisissez, il y a six possibilités, vous cliquez, et au fur et à mesure que vous cliquez vos choix, est-ce que c'est que vous voulez uniquement pour des aspects non marchands, ou pour éventuellement des aspects marchands, non dérivatifs, c'est-à-dire est-ce que vous voulez qu'on travaille dessus, on modifie votre article ou pas, etc. Vous choisissez clairement les logos, qui renvoie, je ne vous dis pas, mais un contrat juridique, legal contract, very sophisticated, because your law is very complicated, you know, more than in Europe. Bon, donc, mais vous n'avez pas besoin de vous occuper de ça, hein, c'est derrière, c'est un lien seulement. Hein. Et alors, quand vous avez choisi les options, l'ensemble de ces options sont capitalisées sous forme d'un logo avec plusieurs petits éléments, et vous affectez votre ce logo à votre numéro d'URL, si c'est un document qui est numérique. Si ce n'est pas un document qui est numérique, moi j'ai licencié sous Creative Commons un livre, par exemple, vous sortez, vous l'imprimez, vous le faites un scan, vous faites un montage, copier-coller, etc. Et vous pouvez affecter quelque chose de non numérique avec la licence. L'intérêt du numérique, c'est comme disait Petit, c'est-à-dire que c'est d'utiliser le web dans toutes ses possibilités, à savoir que maintenant il y a des moteurs de recherche qui vont vous permettre de rechercher une tour Eiffel de jour en automne et vous allez demander, je voudrais qu'elle soit sous licence Creative Commons by. Et à ce moment-là, le moteur de recherche va servir de filtre. Hein. Yahoo le fait, Google le fait aussi. Hein. Et va vous sortir uniquement les photos de la tour Eiffel en automne, etc., avec cette licence. Donc vous êtes complètement sécurisé parce que vous avez l'œuvre qui vous permet voilà, de l'utiliser avec la licence.
Juste une précision quand même, les moteurs de recherche ne sont pas magiques, ils ne vont pas aller vous lire tous les PDF et voir s'il n'y a pas par hasard le logo Creative Commons qui apparaît dedans. Les licences Creative Commons, elles existent sous trois formes. Une forme légale, qui est compliquée tout ça, une forme, ce qui s'appelle DID, qui est un truc très simple que tout le monde peut lire et comprendre, et une forme numérique électronique. C'est ça qu'il faut mettre dans les documents. Par exemple, pour les photos, sur Flickr, on peut préciser quand on met une photo, quelle licence on veut lui attribuer, et dans le code de la page de Flickr, il est précisé dans un langage que les moteurs de recherche type Google et Yahoo comprennent, la licence et la licence Creative Commons qui est utilisée. Dans les PDF des articles, on peut inclure aussi ça. C'est pas très compliqué à faire, si par exemple vous faites du LaTeX, il y a un paquet, vous allez sur un site de Creative Commons, vous remplissez le formulaire exactement comme Daniel l'a dit, vous dites je veux le format XMP, ça s'appelle, et ensuite vous le mettez à côté de votre fichier LaTeX, vous incluez un petit package, voilà, bon, ça se fait tout seul après la compilation. Mais il faut donner ces informations aux ordinateurs aussi, et c'est là la puissance de Creative Commons, c'est qu'il y a ces trois formes-là. Donc ça se fait pas tout seul, il faut quand même mettre des métadonnées dans les fichiers. Si vous générez un PDF comme ça, après, vous allez dans votre lecteur PDF, vous faites propriété, il y a un petit champ de licence, il y a marqué licence Creative Commons 4.0, par exemple. Il y a les auteurs, il y a tout ce que vous avez précisé dans le formulaire Creative Commons. Donc il faut quand même faire cette étape-là, c'est pas compliqué à faire, mais il faut faire.
Non, juste un point, c'est vous faites uniquement sur le web le choix et vous générez automatiquement les trois éléments dont vous parlez, c'est-à-dire le DID, c'est fait, c'est pas à vous de le faire. Vous choisissez et vous avez en sortie les trois éléments. C'est très simple.
Oui, c'est juste, il y a juste à faire l'étape que vous avez dit, c'est juste que c'est. Après, il faut le mettre dans le document quand même. Il faut mettre les métadonnées. Quoi. C'est pas juste mettre un logo qu'on imprime et qu'on colle dessus ou une image. Ça suffit pas en fait.
No, I'm actually not responding to this question. Is it okay if I ask a question myself?
Yes. Perfect. But that might be too fast because we have to.
Yeah. Like, but this is actually a very important one, and I apologize that it's in English. And I'm going to ask the question from someone who also gave the presentation in English because that's the one I understood the most. So Susan, this is for you. It's both a question and it's a comment for everyone. You gave a great background on an insight into how the world of math publishing works, at least in America, and probably around the world to somewhat extent. One issue that you emphasized repeatedly was that all math papers are available for free.
Sorry,
not all, but the ones that are put in archive, and the fact that they are available for free without cost, etc., was a major point. Not all, not all, but a significant amount of them. And my, again, not a question, but a comment really, is that for everyone, that please don't fixate only on the papers being free of cost. First of all, there's no such thing as free lunch. Somebody is paying for it, you are not paying for it. And that's the reason it's free of cost. The question becomes really that open access is not about freedom of cost only, it's a freedom of reuse, which Daniel mentioned several times. In fact, she very emphatically said, what did you say? Réutilisation. And not being able to reuse the work legally, even if you can access it, is only, it's a false freedom in many ways. Now, that said, your very good rebuttal would be, but in the world of math, nobody cares. Everyone has been using people's work. The thing is that in the world of math, there is a custom established, and it's great. But what if someone from outside the world of math comes? But let's forget about math. Let's replace math with any science. So my domain is not just math or plasma physics or molecular biology. It is the vast world of science, most of which I don't even know. And what happens is when someone from one domain publishes something and someone from a completely different domain utilizes that for something, it is the potential of legal uncertainty that we want to avoid, which only comes into play when something of value comes into being, right? Somebody publishes something obscure on math and nobody cares about it, and one day someone comes and uses it to create something and becomes a billionaire. And now suddenly everyone will come out of the woodwork wanting a piece of the flesh, right? A pound of flesh. So that is why open access about reuse, freedom of reuse, is very important and not just fixating on cost.
Well, when I was on my live, mentioning the archive, where, to my knowledge, almost all mathematicians post their papers, and they can do so according to, again, the rules of most of the journals, most of the publishers that I know, they can post up to the final published version. This is on the web. Anyone can take it. It is true that, at least until
probably relatively recently, mathematicians haven't worried about the value, the commercial value of their work. However, there is commercial value, and it's going to become more and more important, and cryptography, etc., is based on number theory that is probably out there, freely available on the archive. I think, as far as the archive goes, if you're posting there, you're running the risk that what could come of value, you haven't protected it at all. However, when you publish for example, an AMS journal, which is what I know most about, you have the option of giving the AMS the copyright, in which case the AMS will promises, and I believe fulfills the promise, of protecting the legal quantities and possible profits and other things. Now, exactly what this copyright is, I've signed it myself, I've never read it, which of course I should do. I don't know exactly what, if something became $1 million profits, I don't know what will happen. But I presume the AMS is safeguarding this. But also, the AMS and SIAM give every author the option of not signing over the copyright. Instead, you sign a license to consent to publish, or form to consent to publish, and then the license comes under Creative Commons.
Okay.
So I think in that case, Creative Commons is probably what will be looking after the reproduction and everything else, which could, as you say, potentially become very important.
Right, so the issue...
All I know for certain is what the American Math Society and SIAM have as policy.
My only point here is that the couple of things here. Remember, if you don't apply a license, then actually you have protected it completely. So again, going back to my, license doesn't mean protection. Actually, license means just the opposite of protection. You're actually giving away certain rights. So you're unprotecting some parts of it. That's what a license means. If you don't apply a license, you're protecting everything, because by default, at least in America and in most other countries, it's all rights reserved. So that's perfectly okay. I have nothing against it. Whether you transfer your copyright to AMS or you keep it and transfer only some of the rights via a license, I really don't care about that. All I care about is whether or not it is open access. Mm-hmm. It is not open access unless it complies with the Budapest Open Access Initiative Declaration, or with the subsequent Berlin Declinations, or with the Open Knowledge Definition, which is the right to reuse for any purpose whatsoever. And therein lies the problem. If you want to protect your work so that only you may benefit from a potential $1 million profit, even though you may never realize it, put it under an all rights reserved license. But if you want to share your work with the rest of humanity so that anyone may profit from it, then put it under open access. That is the distinction I want to underline. Open access does not mean free of cost. It means giving rights to people to reuse for any purpose whatsoever. And that's the main thing that you should take home, really.
Okay, no, yes, it's a good conclusion. Just for Suzanne, when you give your copyrights to Elsevier, then they own it. Don't remember that, and you don't have it anymore. So if you give it to MS, you have good lawyers, everything, but if you give it to Elsevier, they have good lawyers to protect them and not you. Okay, donc d'ici, sorry, en français, je vous remercie tous de votre participation. Vous savez que cet après-midi, on a un petit groupe de travail. Si vous voulez y participer, vous me le dites. Vous êtes les bienvenus, mais il faut me le dire parce que je vois si la salle est suffisamment grande. Voilà, merci, et tout sera sur le web, et donc j'essaierai de vous... Ou alors, non, vous me contactez si vous voulez savoir quand est-ce que ça sera disponible, parce qu'il va y avoir un certain temps de montage et de mise en ligne. Voilà, merci encore de votre participation. Merci.